il y a 2 semaines en arrière, on a vu les choix du royaume de Dieu. Il y a des choix et on est confronté face au royaume de Dieu, au choix de rentrer dedans ou de laisser les choses se faire et d'être peut-être même tout près du royaume de Dieu, mais de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Ce matin, je voudrais qu'on pénètre dans ce thème des lois du royaume. Il y a des lois qui sont dans le royaume de Dieu qui sont infaillibles. C'est-à-dire qu'elles ne se trompent jamais. Il y a des lois qui sont inaltérables, qu'on ne peut pas modifier. Même si on a envie, on ne peut pas les modifier. Il y a des lois dans lesquelles on est et qu'on n'en a pas conscience forcément. Imaginez que je prenne ma Bible et que je vous demande par la pensée de la retenir alors que j'enlève ma main. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sûr? Même si vous le voulez très fort, elle va pas flotter dans l'air? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de la pesanteur qui est là et qu'on n'a pas toujours conscience. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu, il y a des lois dont on ne se rend pas compte, mais si on essaie de faire des efforts contre les lois, eh bien on va se rendre compte qu'on s'épuise pour rien. Le Seigneur nous invite à réfléchir, à méditer et à nous imprégner de ces choses-là pour vivre la bénédiction qu'il veut que nous vivions dans nos vies. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des chrétiens frustrés, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens avec des mines tristes, même si ça arrive des moments où on peut être triste pour les circonstances, mais qu'on soit pas des chrétiens continuellement triste, continuellement abattu, continuellement en train de dire tout ce qui ne va pas, continuellement en train de se plaindre, continuellement en train de souligner toutes les choses dans ce monde qui sont en train de se corrompre. Bien sûr que c'est le cas. Pas besoin d'être un prophète grandiose pour se rendre compte que le monde va de plus en plus mal. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans sa joie. Quand on est dans le royaume de Dieu, il y a une joie ineffable dans notre cœur. Les lois du royaume, ce sont des lois incontournables. Et que je sois d'accord ou non, c'est comme ça. Voilà pourquoi c'est important de savoir, de connaître ces lois. Quand on conduit la voiture, avant de pouvoir conduire la voiture, il faut passer le permis. Il faut passer le code. Et puis, il faut faire un peu de conduite pour connaître quelles sont les lois qui permettent de conduire. Si tous les panneaux, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me pousse à accélérer, à un moment donné, ça va poser problème. Ça peut causer même de graves accidents, parce que des gens ne regardent pas les panneaux, ne tiennent pas compte des lois, et ça peut causer des problèmes soit pour eux, soit pour les autres. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons de cette trempe-là. Il veut qu'on entre vraiment dans son royaume et qu'on soit pénétré, imprégné de ses lois. Alors on va commencer par ce texte dans Matthieu chapitre 13. Verset 1er, c'est un texte, un des plus connus de la Bible. Pas le plus connu, parce que le plus connu, on pourrait dire, c'est soit le psaume 23, soit Jean 3,16. Mais le Matthieu 13, il est quand même assez connu. Matthieu 13, verset 1er, on va lire la parabole du semeur et l'explication que Jésus en donne. Matthieu 13, verset 1er, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Regardez au verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Est-ce que vous avez vu la loi qui est représentée dans cette parabole? On pourrait donner plein de lois, aller dans toutes sortes de directions. On a l'habitude de souligner que c'est la consistance des terrains qui est là, qui fait en sorte qu'il y a du fruit ou pas. Et on a raison de le faire, parce que les terrains, ce sont des comparaisons par rapport au cœur des êtres humains. Mais ce que je voudrais souligner dans ce passage, c'est cette loi de la multiplication. C'est-à-dire que ce que Dieu sème va forcément porter du fruit. Ce que Dieu sème va forcément porter du fruit. C'est-à-dire que dans la graine, dans la semence que Dieu donne, il y a une puissance de multiplication. Ce matin, je voudrais vous parler de la loi de la multiplication. Quand Dieu sème quelque chose, alors il y a une puissance de vie qui va se déployer. Toujours est-il qu'il faut qu'il y ait des bonnes conditions quand même. Mais parfois, on a l'impression que c'est Dieu de son côté, que les choses que Dieu a promis ne se passent pas comme prévu. Mais il faut bien réaliser que c'est pas la faute au Seigneur. C'est pas la faute au Seigneur s'il n'y a pas de fruits dans ma vie. C'est pas la faute au Seigneur si la semence ne se multiplie pas. Parce que tout ce que Dieu sème a un pouvoir de multiplication. Si je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, qu'est-ce qu'il est dit? Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il dit pas un grain va en donner seulement un. Non, ça marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, quand les choses viennent de Dieu, quand on reçoit la semence de Dieu, quand le ciel s'ouvre sur notre vie et que quelque chose nous est communiqué, vraiment, et que ça tombe dans la bonne terre, alors il y a la multiplication, c'est obligatoire. Mais s'il n'y a pas multiplication, alors il faut se poser des questions. Et il faut se poser les bonnes questions. Première question, est-ce que ce que j'ai reçu, c'est bien la semence divine ? Est-ce que c'est bien la parole de Dieu? Ben oui, parce que si c'est pas la parole de Dieu, alors la promesse de multiplication, elle n'est pas là. Si ça vient pas du ciel, ce que je reçois dans mon cœur, ou si je fais un mélange entre ce que le monde me donne et ce que la parole de Dieu me donne, c'est obligé que ça ne porte pas du fruit. Parce que ce qui va porter du fruit, c'est la parole totale et entière de la part du Seigneur. J'avais un verset aussi auquel je pensais dans Galates au chapitre 6 et au verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Vous allez dire, comment on peut se moquer de Dieu ? « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » quand on sème quelque chose qui a une dimension divine, quelque chose qui nous est envoyé du ciel, et là la semence en question c'est la parole de Dieu, alors c'est obligatoire, ça va produire quelque chose. On va moissonner la vie éternelle. Ça vous intéresse de moissonner la vie éternelle, d'expérimenter déjà ici-bas sur la terre cette qualité de vie qui est en communion avec Dieu, et puis avec la promesse qu'un jour on sera dans le ciel avec lui pour l'éternité. Ça c'est la promesse du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous vivions. Il veut que nous entrions dans cette réalité de la vie éternelle. Non pas qu'on ne mourra jamais ici-bas, parce qu'on est tous des hommes et des femmes, et on sait que notre corps, il est limité. Il y a une date de péremption sur notre corps, on ne sait pas combien ça s'évalue, mais on sait que, malheureusement, un jour, on doit arrêter de vivre ici-bas. Mais heureusement, quand on a la foi en le Seigneur, on sait que la vie, elle se prolonge. C'est pas une fin en soi, la mort. Mais c'est le commencement d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais déjà ici-bas, Dieu veut que nous moissonnions la vie éternelle. Il veut que nous puissions goûter cette qualité de vie particulière. Alors la question qui se pose, comme je le disais, est-ce que la semence que j'ai reçue, elle est bien divine? Vous avez le droit, chaque dimanche, chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, de vous poser, et vous avez même le devoir de vous poser cette question. Est-ce que la semence qui est semée le dimanche matin, c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est les pensées, les raisonnements du pasteur? Est-ce que c'est ce que lui, il a envie de me communiquer, une philosophie, une morale? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Vous avez vu que je m'applique à rester attaché à la parole de Dieu, parce que c'est ça qui produit la vie. Quand on essaye de prendre des philosophies humaines, des raisonnements de ce monde, quand on essaye de prendre des façons de réfléchir des gens qui nous entourent, et quand on essaye de mélanger tout ça avec la parole de Dieu, eh bien, ça donne des choses tout à fait déplorables. Et surtout, ça ne va pas amener du fruit. J'ai reçu un mail d'une association dont je ne dirai pas le nom, soi-disant chrétienne, et je regardais donc la confession de foi, et la confession de foi, il commence à dire « Nous ne sommes pas d'accord avec Paul quand il dit ceci ou cela, nous ne sommes pas d'accord avec Pierre quand il dit ceci ou cela, nous ne sommes pas d'accord avec Jacques quand il dit ceci ou cela. » J'ai dit « Mais c'est quoi cette confession de foi ? Je suis chrétien, mais je ne suis pas d'accord avec la Bible. » Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas possible. C'est un mélange, et tout ce qui dénature la parole de Dieu ne peut pas produire du bon fruit. Alors, c'est sûr, quand on voit comme ça les choses écrites noir sur blanc, c'est facile de souligner ce qui n'est pas conforme. Mais parfois, c'est nos raisonnements dans notre cœur qui sont comme ça, ou en mélange. On choisit de prendre ce qui nous intéresse de la parole de Dieu, et les versets qui sont un peu plus compliqués, ben ça, on n'en veut pas. Ça ne nous concerne pas. Ah, on veut la bénédiction du Seigneur, mais on ne veut pas l'obéissance. C'est facile, ça, hein? Mais ça marche pas comme ça. Quand il y a une loi, on doit se plier à la loi tout entière pour aussi en trouver le bénéfice. Quand on se place sous les lois du royaume, il n'y a pas qu'une question d'obéissance, de devoir faire les choses en se forçant, en soupirant parce que c'est dur, mais il y a surtout la promesse de la bénédiction de Dieu. La loi de multiplication, c'est que si je reçois quelque chose qui vient du ciel, ça va produire quelque chose dans ma vie. De plus grand que ce que moi je pourrais faire par mes propres efforts. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui la reçoit vraiment au fond de son cœur, il va être transformé dans sa vie. C'est obligatoire, ça peut pas être autrement. S'il n'y a pas de transformation, alors c'est le moment de réfléchir à notre vie. Est-ce que si c'est bien la parole de Dieu que je reçois, est-ce que je la mets à la bonne place? C'est où la bonne place? Je connaissais un monsieur qui disait que lui, il mettait la Bible, il la mettait dans la boîte à gants de la voiture. C'est ça la bonne place? Et il disait, si je la mets dans la boîte à gants, ben comme ça, j'aurai pas d'accident. Est-ce que c'est ça la bonne place? Non, ça s'appelle la superstition. Et c'est pas parce que c'est la Bible, c'est le livre de Dieu, que la superstition va marcher quand même. Dieu n'est pas pour les superstitions. Dieu, il est pour la foi. La foi dans le contenu, pas le livre en lui-même. Une fois, j'étais jeune et un petit peu manqué de maturité. Dans une colonie, j'avais posé ma Bible parce qu'il n'y avait pas de place où poser pour manger, sur les chaises ou sur les tables. Je l'avais posée par terre. Et là, tout à coup, quelqu'un vient du personnel qui vient avec horreur. Ne fais pas ça, c'est la parole de Dieu, surtout, ne la mets pas par terre, c'est sacré. Alors, par respect pour la personne, je l'ai mis, j'ai trouvé un autre endroit pour la poser. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est pas le livre là, qui est la parole de Dieu. C'est pas le livre en lui-même, l'objet. La parole de Dieu, c'est le message, c'est le contenu. Et que je mette l'objet par terre, bien sûr, je ne vais pas le faire. Mais que je le mette par terre ou pas, c'est pas ça l'important. C'est surtout, est-ce qu'il est à la bonne place dans mon cœur? On peut entendre la parole de Dieu et ne pas la mettre à la bonne place. C'est ce qui est dit dans ce premier terrain, finalement, quand on y réfléchit. Est-ce que c'est pas ça le problème de la semence qui est le long du chemin? Elle n'est pas dans la terre. Elle est sur, à la surface. Et on peut entendre la parole de Dieu en restant à la surface. Ce matin, vous pouvez entendre cette parole que l'on partage simplement, et elle peut rester totalement à la surface. Et alors, ne vous étonnez pas si ça produit aucun fruit. Parce que le problème ne vient pas de la graine. Parce que la graine, c'est la semence de Dieu. Et tout ce que Dieu sème, ça multiplie. Le problème, c'est si on ne la met pas à la bonne place. Quand on regarde la parole bol du semeur, on se rend compte que pour ce terrain-là, il y avait un problème d'incompréhension. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui ne comprennent pas. Et qui, parce qu'ils ne comprennent pas, ils rejettent. Est-ce que parce que quelque chose, on ne le comprend pas, on doit forcément le rejeter? Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez qu'un monsieur, alors je pensais à cet exemple qui est totalement virtuel, imaginez qu'un monsieur chinois vienne taper à votre porte. Et donc vous l'ouvrez, et puis il commence à vous parler en chinois. Et il vous parle en chinois pendant 10 minutes en vous présentant un papier, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous parlez chinois? Il y en a qui parlent chinois? Bon, moi, je parle pas chinois, donc si ça continue comme ça, il va se poser un choix à un moment donné. Je vais lui dire, mais monsieur, je vous comprends pas. Je vais lui faire comprendre que je sais pas ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, ben, je vais lui demander de partir. Et si le monsieur, il continue d'insister en chinois, en montrant un papier, en demandant de signer dans le papier, à un moment donné, il y a le choix de dire, soit je continue, je vais essayer de me débrouiller pour comprendre ce qu'il veut parce que ça a l'air important, ou soit je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre, ça m'intéresse pas, je le mets dehors et je ferme la porte. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça dépend en fait du contexte. Maintenant, si je vous dis qu'en fait, sur le papier, qui est marqué en chinois, c'est votre oncle de Chine qui a fait fortune en Chine, qui vous lègue tous ses biens parce qu'il est décédé, c'est son testament. Et il suffit que vous signiez pour avoir tout. Sauf que c'est en chinois. Et vous voyez que parfois, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que c'est forcément mauvais. Et c'est exactement le principe de la parole de Dieu. C'est sûr, quand c'est la première fois qu'on lit la Bible et qu'on commence par la Genèse et qu'on lit de manière chronologique comme ça, il y a un petit peu de mal à comprendre les choses. Enfin, moi, j'ai eu du mal quand j'ai fait ma lecture de la Bible de manière continuelle. Mais la Bible, c'est pas un livre qu'on lit de manière normale, c'est un livre qu'on doit lire avec le cœur. Et même si on comprend pas, ça doit pas rester à la surface. Pour que les choses pénètrent à l'intérieur, ça demande du temps. Pour que j'apprenne le chinois, ça va demander du temps. Mais je vais prendre des cours. Si je sais que le but, c'est important d'avoir l'héritage de l'oncle de Chine, alors je vais prendre les cours, je vais apprendre le chinois et je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir signer le papier à la fin. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce qu'un jour je l'entends et que je comprends pas que je vais dire non, c'est pas bon pour moi, j'en veux pas. Mais mon frère, ma sœur, si tu savais tout le bien que la parole de Dieu peut faire, si tu savais la puissance de multiplication que ça peut entraîner dans ta vie, dans ton cœur, au niveau de tes émotions, alors que tu passes par des temps difficiles, alors que c'est les larmes, les tristesses qui est là, le Seigneur veut multiplier sa paix, il veut multiplier sa faveur, il veut multiplier sa grâce, il veut multiplier toutes sortes de bons sentiments dans ton cœur. À condition que la parole de Dieu pénètre en profondeur. Et un Philippe a posé une question à un moment donné à un homme qui lisait la Bible. Il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et j'aime la question, la réponse de cet homme. Tout simple. Pourtant, c'était un ministre, une autorité, ministre de la reine Candace d'Éthiopie. Et pourtant, cet homme, il dit, mais comment est-ce que je pourrais comprendre cette parole si quelqu'un ne me guide? Comment est-ce que je peux comprendre tout seul? Et Philippe, envoyé par le Seigneur à cet endroit-là, ben, il a commencé à lui expliquer. Et le résultat, c'est que cet homme a été une bénédiction. Cette parole a été une bénédiction pour cet homme, mais cet homme lui-même a été une bénédiction pour tout son pays. Parce que la parole de Dieu s'est multipliée dans son cœur. Parfois, on a besoin des autres. On a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui nous conduise pour apprendre la parole de Dieu, pour apprendre à la lire, pour apprendre à la méditer. Mais ça en vaut la peine parce que quand le grain multiplie, alors ça produit 100, ça produit 60, ça produit 30, ça produit toujours quelque chose de plus. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ne nous attendons pas à ce que la parole de Dieu porte du fruit si on ne la laisse pas pénétrer en profondeur. Mais disons, Seigneur, je veux prendre du temps pour laisser cette parole. Et moi, ça m'a pris des années et des années avant que vraiment cette parole puisse rentrer en profondeur dans mon cœur. Pendant des années, j'ai lu la Bible, mais je la lisais pas de la bonne manière, mais je la lisais quand même. Et le Seigneur a permis, au bout d'un certain temps, que cette parole vraiment pénètre et que là, mes yeux s'ouvrent et que je comprenne petit à petit, hein, je comprends encore aujourd'hui des choses parce que c'est un chemin de longue haleine, mais encore aujourd'hui, le Seigneur a permis que cette parole puisse faire son œuvre dans ma vie. Si c'est la bonne semence et qu'elle est à la bonne place à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fruit? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est dedans et qui ne doit pas y être? Est-ce que c'est pas ça la parabole du semeur? Il y a des choses qui sont à l'intérieur et qui ne doivent pas y être. Quand vous faites le jardin, qu'est-ce que vous faites avant de faire le jardin? Vous allez semer la semence n'importe où comme ça? Ou alors vous allez préparer la terre? On fait tout ça, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est là que ça va porter du fruit. Et le principe, il est vrai. La semence, elle est porteuse de la multiplication, mais si elle est que à la surface, ça marche pas. Et si elle est au bon endroit, mais que dans cet endroit-là, il y a plein de cailloux, plein de pierres de tous les côtés, ça va pas produire autant de fruits que ça le pourrait. Parce que à l'intérieur, il y a des choses qui ne doivent pas y être. Et le résultat, c'est que la semence va pas avoir de racines, elle va pas être forte. Et on voit tellement et tellement de chrétiens qui ne sont pas forts dans l'épreuve, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas dans cette maturité de la foi, qui dit que peu importe les circonstances, peu importe que le monde s'écroule, moi je reste solidement ancré dans le Seigneur. C'est pas moi qui suis fort. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est éternel, c'est Dieu qui est infaillible. Et moi, simplement, par la foi, je suis accroché à lui. Ma main est dans la main de mon Seigneur. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le salut et le soutien de mon âme. Hein? David, il avait compris ça. Et combien on a tout intérêt à vivre cette réalité. Je regardais cette semaine des personnes, une émission qui parlait de personnes bipolaires. Et vous savez que c'est quelque chose de terrible parce que les diagnostics, ils mettent des années et des années à être faits sur ces personnes parce que ça ressemble un peu à la dépression, mais en même temps, il y a des moments d'euphorie. Et le problème de ces gens, ils disaient que le plus terrible, c'est qu'ils passent de moments d'euphorie, de moments de joie, de moments où ils se sentent conquérants, ils croient qu'ils sont les maîtres de la ville, à des moments où ils sont en profonde dépression. Et ce qui est difficile, c'est cette descente. Dans ce sentiment où on se sent super bien, dans cette descente où on se sent moins que rien. Ce qu'on appelle les ascenseurs émotionnels. Mais là, c'est un ascenseur qui descend. C'est-à-dire qu'on monte très haut et on descend très bas. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, je dis pas que tous ceux qui comprennent pas la Bible sont bipolaires, attention. Mais c'est ce qui se passe où on voit des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Ils sont là, et ouais, super, je commence à comprendre certaines choses du Seigneur. Mais c'est quand même superficiel parce qu'il y a toujours des cailloux qui sont là. Et quand il y a une épreuve qui vient, quand il y a une persécution qui vient, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire qu'ils tombent dans un sentiment d'incapacité. Je ne suis pas capable de résister. C'est trop dur pour moi. C'est trop difficile. Il y a toutes sortes de choses qui sont à l'intérieur et qui font mal parce que on n'a pas fait ce qu'il faut au niveau de notre cœur. Vous savez que là, le grain va multiplier dans une terre qui est ameublie, une terre qui est pénétrée par une charrue, une terre qui est labourée, une terre qui est labourée en profondeur. C'est comme ça que les cailloux sont enlevés. Là, on pourrait presque partir tous auprès d'un potager, tiens, chez Daniel Janella, il nous montrerait comment il fait. Avec son potager et tout le travail de préparation qu'il y a, mais c'est une excellente leçon parce que ça nous montre ce qu'il faut faire pour nous dans nos propres vies. Je me plains, Seigneur, oh, tu vois, je suis pas assez solide quand il y a l'épreuve, je tombe, je défaillis. Bien sûr que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais quand je tombe à chaque fois qu'il y a une épreuve qui se présente, il faut que quand même que je me pose des questions. Seigneur, tu vois combien je suis faible. Et le Seigneur il dit, mais regarde dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas des cailloux qui sont là? Tout simplement. Laisse mon Saint-Esprit sonder ton cœur. Éprouve-moi, disait David. Éprouve-moi, oh Dieu, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien ça vaut la peine de prendre du temps comme ça? Bien sûr, c'est pas qu'on parle d'émotions positives ou négatives, mais c'est pas très positif, hein, quand on laisse le Seigneur nous montrer dans notre cœur s'il y a des cailloux. S'il y a des choses mauvaises, des pensées, des péchés qu'on tolère, des mauvaises pensées de souillure qui sont là. Mais ça fait mal quand Dieu pointe du doigt sur ces choses-là. Mais quand on l'enlève, alors la terre, elle respire derrière. Alors il y a la place pour les racines. Alors on devient fort. Alors notre cœur qui était dur, il devient tendre. Et cette tendresse permet que toutes sortes de bonnes choses se passent. Permet que l'eau puisse pénétrer en profondeur, l'eau du Saint-Esprit, et vous voyez toute l'image qui est là derrière, qui nous montre ce que Dieu veut faire dans un cœur qui s'attend à lui. Autre chose pour être présente qui nous est donnée par ce passage, soit il y a des cailloux à l'intérieur, soit il y a des épines. Le problème des épines, c'est que quand elles sont toutes petites, on les voit pas. On voit pas trop. Et pour pouvoir les enlever, il faut qu'elles soient grandes. Et vous savez que le parallèle que le Seigneur Jésus fait avec les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et tout ce que ce monde peut nous offrir, qui n'est pas mauvais en soi forcément, mais qui prend petit à petit beaucoup de place, de plus en plus de place. Et la difficulté, c'est que la semence, elle est au bon endroit, et elle a la possibilité de se multiplier, sauf qu'il y a d'autres choses qui l'étouffent, qui l'empêchent de multiplier autant que Dieu voudrait. Et vous savez ce qui se passe quand Dieu nous donne des promesses, quand Dieu nous dit toutes sortes de belles choses dans sa parole, et que quand on regarde nos vies, on s'aperçoit que c'est pas aussi bien que ce que le Seigneur y dit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il y a la frustration. Combien et combien de personnes sont frustrées dans notre monde aujourd'hui? Et même dans les églises. Parce qu'ils lisent de très très beaux passages de la parole de Dieu, ils lisent de très belles promesses de la part du Seigneur, les plus belles, les plus grandes et merveilleuses promesses, mais ce qu'ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils lisent. Est-ce que quand on vit de telles choses, imaginez, je vous promets, demain je vais vous donner 1 million d'euros. Ça, vous êtes content? Oui? Imaginez que je vous dis ça. Voilà, démarrer dit moi le premier. Et puis demain j'arrive et je vous dis, bon, je suis désolé, j'ai regardé sur mon compte, j'ai pas 1 million d'euros, par contre j'ai 1 euro. Donc je te le donne. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez être frustré. Vous allez dire, mais non, mais tu m'as dit ça, tu m'as fait miroiter une belle somme, et puis là tu me donnes 1 euro. Mais est-ce que c'est pas ça qui se passe parfois dans notre cœur par rapport à la parole de Dieu? Seigneur, il dit, tu vas porter beaucoup de fruits. Un grain va en donner 100. Quand tu vas être dans une situation difficile où tu as besoin d'amour, le Seigneur va répandre ton amour, va répandre sa paix, va répandre tout ce que tu as besoin dans ton cœur. Quand tu passes par un temps difficile, il va te donner la force, il va multiplier toutes ces choses. Et puis quand tu vis la situation, ben en fait non, t'es toujours dans la peur, t'es toujours dans la crainte, t'es toujours dans le découragement. Et le problème, il se trouve où? Il se trouve que la semence n'a pas la place pour grandir. Oui, il y a du fruit. Et c'est ça qui m'a interpellé dans ce terrain-là, c'est qu'il y a du fruit qui sort. Mais un petit fruit. Un petit fruit. Alors que Dieu promet un grand fruit. C'est pas parce que la semence est à la bonne place qu'elle va forcément produire du grand fruit, il faut qu'aussi je lui laisse toute la place en fait. C'est ça la différence. Est-ce que dans mon cœur, la parole de Dieu, elle a toute sa place? Elle peut grandir partout où Dieu me le permet. Ou alors il y a des domaines, je l'ai cloisonné dans une pièce de ma maison et j'ai fermé les portes pour pas qu'elle aille dans les chambres ou dans le grenier, là où j'ai pas envie qu'elle aille. Et alors la parole va pas grandir plus que ça. Dieu, il enfonce pas les portes fermées dans nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dedans, par contre. Attention, hein, il n'est pas surpris. Mais il veut nous apprendre à lui remettre toutes choses. Et celui qui a un potager, ben, il doit venir. Ça prend encore du temps d'enlever les épines. C'est tous les jours presque qu'il faut aller chercher les herbes mauvaises et puis les arracher les unes après les autres. Mais le but, oui, ça fait mal. Oui, ça pique. Mais le but, c'est que Dieu envoie sa bénédiction dans notre vie. Ne nous attendons pas à ce que la parole de Dieu porte du fruit si on ne lui laisse pas la place. Mais par contre, si notre cœur il est tout entier pour le Seigneur, un verset nous dit « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu », alors le résultat, c'est qu'obligatoirement, la semence va multiplier dans nos vies. Et je bénis le Seigneur quand je vois des hommes et des femmes qui, à un moment donné, oui, il y a eu des failles, oui, il y a eu des temps difficiles, oui, il y a eu des faiblesses, mais ils disent « Moi, j'ai confiance dans ce que le Seigneur dit et je veux croire dans cette parole » et ils commencent à conformer leur vie par rapport à la parole de Dieu, eh bien, il y a des choses qui changent, il y a des situations qui changent, il y a des situations qui ont duré pendant des années qui commencent à changer quand quelqu'un dit « Je vais mettre ma foi dans ce que le Seigneur me promet. » Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais terminer avec cette deuxième loi, je voulais aller un petit peu plus vite, mais qui se trouve dans Jean chapitre 12 et qui est, vous allez voir, très très proche, très lié avec la loi de la multiplication de la parabole du semeur. Dans Jean chapitre 12, verset 24, c'est Jésus qui parle, juste avant de partir dans le jardin de Gethsémané, tout ce qui va se passer, juste avant d'aller jusqu'à la croix. Voilà ce qu'il dit. On peut lire au verset 23 même. « Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Après la loi de la multiplication, où le grain qui vient de Dieu, il est obligé de multiplier dans notre vie, mais c'est à nous de mettre ce grain à la bonne place. Il y a cette loi qui est là, c'est la loi de l'éclosion. Si je veux que la vie puisse germer, alors il faut qu'il y ait une mort quelque part. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si le grain qui est tombé en terre meurt, il ne pourra jamais porter du fruit. Si je veux avoir la vie de Dieu sans passer par la mort, ça ne marchera jamais. Si la graine en terre, elle veut jamais casser sa coquille pour que la semence à l'intérieur puisse sortir, eh bien la vie ne se produira pas. C'est simple. Est-ce que c'est simple? Oui, mais c'est une loi qui est tellement importante et on voit malheureusement des gens qui pensent qu'ils peuvent passer, ils peuvent goûter à toutes les promesses du Seigneur, ils peuvent vivre une vie bénie de la part de Dieu sans qu'ils passent eux-mêmes par une mort à eux-mêmes, sans qu'ils passent par la repentance, sans qu'ils passent par la conversion. La vie qui va en procéder de cela ne va pas donner quoi que ce soit. Parce que, on l'a lu tout à l'heure, ce qui est semé de la chair hérite la corruption. Mais ce qui est semé de l'esprit, ça hérite la vie éternelle. Et l'exemple du grain de blé, il est tellement simple. À un moment donné, pour que la semence puisse vraiment germer, il faut que la coquille se casse. Alors, je ne sais pas si c'est les bons mots que j'emploie, hein, mais vous comprenez l'image. Et que tout ce qui est à l'intérieur puisse sortir à un moment donné. Et la vie va germer de tout ce qui est à l'intérieur. Et la plante va pouvoir grandir petit à petit parce qu'elle va puiser de cette semence-là. Alors dans ce contexte de ce verset, Jésus, il parle de sa mort. Et il leur dit, mais voilà, en gros, je vais donner ma vie pour que vous ayez la vie. Je vais passer par la mort pour que vous ayez la vie. Et il leur dit, voilà, c'est ça le principe. Pour que la vie de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Ou il faut qu'il y ait quelque chose en moi qui meure. Jésus, là, c'était son corps. Il fallait qu'il passe à la croix. Il fallait qu'il ait ses clous dans les mains, ce clou dans les pieds. Et il fallait que son sang puisse couler. Sa mort nous donne la vie. Mais on se rend compte que le Seigneur, dans toutes sortes de choses, il nous montre que c'est un principe qui fonctionne. Si vous voulez manger la viande que vous mangez, qui va vous donner des forces et des calories et des vitamines, à un moment donné, il faut que quelqu'un s'occupe de donner la mort à l'animal. Alors aujourd'hui, dans une société dans laquelle on est, où on aime que tout soit propre et net, on ne monte pas trop les abattoirs et tout ça, c'est pas trop les endroits où les caméras vont filmer. Ou alors ils filment que les beaux endroits, le devant où il y a la boucherie, où le présentoir, tout est bien découpé. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qui doit tuer l'animal. Est-ce que c'est bien? Alors, il y en a qui sont contre parce qu'ils veulent pas manger de viande. Attention, je rentre pas dans ce débat. Mais si on veut pouvoir manger de la viande, à un moment donné, si on veut pouvoir tirer quelque chose pour notre vie, pour notre mouvement, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Quelque chose, un animal plutôt, qui meure. D'accord? Vous voyez que c'est un principe qui est vrai. Quand une maman donne naissance à un enfant, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des douleurs comme un mal de tête? Les mamans, là. Moi, je sais pas, je l'ai jamais fait. C'est pas prévu au programme. Quoique aujourd'hui, avec la science, ils font toutes sortes de choses. Mais ça m'intéresse pas. Mais quand les mamans parlent de ces choses-là, d'ailleurs, ils disent que si les hommes le faisaient, ils mourraient tous. Il y aurait l'extinction de l'espèce humaine serait si les hommes, ils accouchaient. Et c'est vrai. Mais c'est comme si c'était une mort. Quelque chose de nous qui meurt, un déchirement, il y a toutes sortes de douleurs qui sont là, horribles, affreuses. Alors, je veux pas aller plus loin dans les détails, mais en tout cas, on sent qu'il y a, c'est comme une mort à soi-même pour qu'il y ait une vie qui germe dans ce monde. C'est ça qui se passe, d'un point de vue de la naissance. J'ai un membre qui est touché par la gangrène, si je veux que la vie puisse se propager, continuer d'exister en moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit coupé. Une mort. Et on voit des personnes qui ont un bras ou une main ou une jambe coupée parce que la gangrène a commencé à germer. Je connais un monsieur qui, parce qu'une blessure a été mal soignée et qu'il était dans certaines circonstances de santé, ils ont dû couper. Alors lui, c'était un petit doigt de pied. Mais c'était ça ou alors il perdait toute la jambe. Il faut une mort pour qu'il y ait la vie derrière. Vous comprenez? C'est un principe qui est vrai. C'est un principe qui est vrai dans toutes sortes de domaines, mais c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel. Si je veux goûter à la vie de Dieu, il faut qu'à un moment donné, il y ait une mort. Il y ait une mort à ma propre vie. Il y ait une mort à la vie qui est faite de manière égoïste. Alors justement, qu'est-ce que c'est cette mort dont il est question ? C'est pas seulement abandonner le mal parce que j'ai peur des conséquences. Ah, je vais abandonner le mal parce que j'ai peur de l'enfer. Bien sûr que ça nous fait réfléchir, mais il faut aller plus loin que ça. Je vais abandonner le mal parce que je veux les récompenses dans le ciel, je veux être assis à la droite du Seigneur. C'est bien aussi, mais les disciples, ils ont voulu faire cette demande à Jésus, et on sait quelle manière le Seigneur leur a répondu. C'est pas ça, il faut pas regarder qu'aux récompenses, même si ça fait partie. Je veux pas obéir à ce que le Seigneur me dit parce qu'il y a ma réputation qui est en jeu. Ah, si les gens voient que je fais pas ça, alors qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Des fois, il y a des personnes qui n'obéissent à la parole de Dieu que parce que c'est la bonne réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Tout ce qui est fait dans un motif égoïste, même si c'est des bonnes choses, c'est pas ça qu'on peut appeler la mort à soi-même. La mort à soi-même, c'est un choix volontaire d'abandonner dans l'intérêt de faire du bien à Dieu et aux autres. Est-ce qu'on peut faire du bien à Dieu? Est-ce que c'est possible de faire du bien à Dieu? Vous allez dire, Dieu, il est tout puissant, il n'a pas besoin qu'on lui fasse du bien. Mais on peut réjouir son cœur. On peut le laisser manifester sa faveur parce que on a gagné son approbation. Parce qu'on obéit à sa parole. Dieu veut nous manifester sa vie et il va le faire à la condition que nous on accepte de passer par cette mort à nous-mêmes. Et Dieu nous demande cela, non pas en nous disant « il faut que vous le fassiez, moi ça m'intéresse pas », mais Dieu nous l'a prouvé lui-même. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur cette réalité, que Dieu est celui qui a prouvé que cette loi, elle était valable aussi pour lui. Pour qu'il puisse accorder la vie à des milliards d'êtres humains, il fallait qu'il y en ait un qui meure. Dieu le Fils, Jésus, on l'a dit assez, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il s'est dépouillé de sa gloire, il a abandonné son trône dans le ciel, il s'est humilié, il est passé par les souffrances pour que moi je puisse être béni, pour que moi je puisse être guéri, pour que moi je puisse accéder à la présence de Dieu, pour que moi je puisse partager sa gloire. Mais Dieu le Père, est-ce qu'il n'a pas un petit peu mouru aussi? C'est pas que Dieu est mort, attention, il y en a qui disent ça, des philosophes. Mais il y a eu un déchirement dans le cœur du Père quand il a vu son Fils qui était sur la croix, qui était en train de porter le péché de toute l'humanité. Vous savez ce qui s'est passé? Le Père a détourné son regard. Son Fils qui avait fait tout son plaisir, tout son bonheur, imaginez votre enfant qui fait toujours tout ce que vous lui dites. Alors, nos enfants, malheureusement, ils font pas toujours ce qu'on leur en dit, hein. Des fois, on est obligé de sévir. Mais Jésus, c'était un enfant qui avait jamais fait de mal, qui avait jamais fait quelque chose de travers, qui avait toujours fait la volonté de son père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà le témoignage de Dieu le Père envers Dieu le Fils. Et pourtant, à un moment donné, il va détourner son regard de son fils qui est là en train de porter le péché de l'humanité. Quel déchirement dans le cœur du Père. Quelle mort à lui-même. Quel renoncement pour que nous puissions avoir la vie. Mais Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, tous y sont passés par cette étape-là. Imaginez le Saint-Esprit, de par son nom, c'est l'Esprit de sainteté, l'Esprit qui ne désire qu'une chose, c'est que dans notre vie, il puisse y avoir la sainteté, mais qui, à un moment donné, choisit de venir habiter en nous, parce que nous, on fait les bonnes étapes, on se repent, parce qu'on renonce à nous-mêmes, on dit « Seigneur, je veux marcher dans tes voies ». Dieu, le Saint-Esprit, a malgré toute sa perfection, sa beauté, sa grandeur, il choisit de venir habiter dans le cœur d'un être humain. Comment est-ce qu'il est le temple de l'Esprit? Ben, il n'est pas terrible, hein, parce que c'est notre cœur. Il n'est pas grandiose, il n'est pas magnifique. Mais Dieu, le Saint-Esprit, choisit de renoncer à lui-même en venant habiter en nous pour nous aider à grandir, pour nous aider à changer les choses, pour nous aider à devenir de plus en plus beaux aux yeux de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, par le sacrifice de la croix, Dieu, quand il me voit, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite au-dedans, il me voit magnifique, il me voit grandiose. Et même si c'est pas le cas de manière réelle, parce que le Seigneur a fait cette œuvre dans ma vie, voilà ce qui se passe. La mort, La mort engendre la vie. Et peut-être dans votre cœur, il y a un besoin qui est là. Il y a besoin que la vie de Dieu se manifeste dans un domaine très précis. Mais cela ne pourra se faire que si vous choisissez de renoncer à vous-même. De laisser ce grain de blé, cette semence, mourir en vous, se manifester par un renoncement afin qu'elle puisse produire toute la vie que le Seigneur veut produire